Et alors, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait chercher?
Les devinettes.
Oui.
Ah, les devinettes.
Je me souviens de devinettes.
Ah oh, oui, oui. Mais là, écoutez, je vais vous donner. Vous n'avez pas le dictionnaire de Patineau?
Non.
Moi, je l'ai, oui.
Ah, mais je vais le lui donner alors, parce que vous aurez tout là. Non, c'est pas la peine qu'on fasse un effort là. Je voulais, vous aurez tout là. Comme tu l'as, toi?
Moi je l'ai, oui.
Bon.
Tu me l'avais offert.
Et
des formulettes pour apprendre à prononcer.
Et des formulettes pour apprendre à prononcer.
Oui. Ah, non, pas connu ça. Je ne pas souvenir.
Non. Ah ben ça, là, on tombe dans le truc de la fourmi qui on fait là.
Oui, on dirait.
D'un truc d'élocution.
Ouais.
Des trucs d'élocution. Rien ne me revient à l'esprit. Là, ça, je l'avais noté encore à une époque où c'était encore assez pas frais, mais enfin.
Là, c'est toi qui parles, là. C'est toi qui
Oui. Mais je vais vous le laisser, ça. Vous en ferez ce que vous voulez. Ça vous servira vous essaierez de vous y retrouver, là.
Mais justement, vous avez dit que vous aviez consigné ça dans les années 40.
Oui. J'avais entamé ce truc-là, je voulais faire vraiment un truc sur le folklore. Mm-hmm. De Compouliba, carrément, en faire même un truc. C'était comme je m'étais d'ailleurs fait un plan très, très ambitieux, je voudrais le retrouver. Mais ça veut dire que c'était des choses, c'était des souvenirs qui étaient encore à 10 ans. Mm-hmm. Il y avait des jeux là, à 10 ans. Moi, j'ai fait ça, j'avais 20 ans, 21 ans. Deux ans. Alors donc je me souvenais encore de tout ça. Et aujourd'hui je me souviens plus.
Et comment vous avez appris tout ça?
Ah mais c'était ça faisait partie de la vie quotidienne, de notre vie quotidienne. Moi, vous savez, on vivait, moi j'étais, bon, mon père était instituteur. Mais je précise bien parce que ça a une importance énorme. Alors,
son père était instituteur dans son village
natal. Oui, alors mon père était instituteur, mais il était revenu instituteur dans son village natal, ce qui était assez rare. Mais enfin, c'est-à-dire qu'il bénéficiait du fait qu'il venait de se taper la guerre et les trucs, il était revenu assez amoché de la guerre. Enfin, quand même, on les avait un peu. Pas pistonné, mais enfin, il avait la facilité les choses. C'était la moindre des choses. D'ailleurs, ça m'a valu, moi. Et j'étais pupille d'adaptation. Parce que mon père étant gravement blessé de guerre et n'ayant pas des sommes fantastiques. Bon, enfin, ça se faisait par tribunal, mais c'était pas par. Reconnu depuis la nation, c'est-à-dire que si mon père avait des défaillances, on avait des secours, enfin il y avait tout comme ça. Je me souviens, on me disait, n'oublie jamais quand tu passes tes concours ou comme ça, tu mets Charles Mouly, pupille de la nation. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, donc, mon père revient donc dans son village natal. Il fait la classe aux élèves, aux fils de ses anciens copains. Et c'est assez curieux, ça, pour te dire que donc, on était en prise directe avec la vie du village. C'est que mon père, donc, quand il est revenu à Compouliba, il devait avoir 24 ans ou 25 ans. À peu près. Or, tiens-toi bien, à 14 ans, il est encore valet de ferme. C'est-à-dire qu'il venait faire à la classe d'un même village où on savait qu'à 14 ans, il était allé le faire.
Ça,
oui. Alors, c'est amusant. Enfin, je ne sais pas la peine d'entendre les trucs, mais enfin, pour l'explication, c'est que mon père avait suivi la scolarité normale Et quand il avait passé son certificat d'études au Lamin, ben, il était parti. Et bon, alors qu'est-ce qu'il faisait? À 12 ans, on gagnait sa croûte. Il était parti dans une grosse ferme voisine de la petite ferme où j'étais né. Il était parti où on avait besoin d'un pâtre, d'un berger, puis après, il commençait à labourer. À 14 ans, on vous confiait un arrière et une paire de bœufs, et c'était costaud. Bon. Et alors, il y avait une petite idylle, mais comme elles étaient encore à cette époque-là, tout à fait platoniques, et avec une gamine du village, et qu'il lui dit, moi, à la rentrée, ben, je m'en vais. Mes parents veulent que je sois institutrice, alors je m'en vais et je quitte le village. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, moi je veux être instituteur. Alors, il va trouver mon grand-père, son père. Il lui dit, papa, je veux être instituteur. Tu vois un peu la tête du pépé. Comment tu veux être instituteur alors qu'il était, il était employé dans la ferme. Et oui, le bébé, bonjour, il dit, écoute, je ne veux pas qu'un jour tu me fasses le reproche d'avoir empêché de faire ce que tu voulais faire, mais on va aller trouver l'instituteur, voir si c'est possible. Il va voir l'instituteur lui dit, ah, il avait l'étoffe, si veut, mais il a perdu 2 ans. Il fallait qu'il aille au cours complémentaire, et il a 2 ans à rattraper. C'est pas impossible, mais enfin, le concours... Pour entrer à l'école normale, tu as 16 ans, il faut qu'il rattrape 2 ans. Alors, est-ce que tu te sens capable de rattraper ça avant mon tour? Oui, je le rattrape. Il les a rattrapés. À 16 ans, il est passé, il est entré au concours, il est allé d'après l'école normale. Et après, il est parti en guerre. Bon, 20 ans, il revient là pour vous dire. Alors, moi, dans ce village, d'abord, non, on était en plein dans notre village. On ne pouvait pas être plus dans notre village. Parce que ma mère aussi était du même village, non seulement mon père. Alors il y avait mon père, les grands-parents à une ferme, et ma mère, les grands-parents dans le village même, Forgeron, Maréchal Ferrand. Alors donc, on était en plein là, avec tous leurs copains d'enfance, les uns et les autres. Et en plus, alors là j'ajoute pour que le tableau soit complet, c'est que l'instituteur vivait exactement comme les paysans du coin. On avait une maison, il fallait voir ce que c'était. C'était une maison paysanne, avec une grande cuisine. Où le seul truc, mais même dans les maisons paysannes, il y avait ça, il y avait une pièce à côté qui était un peu plus, disons, pour recevoir, si on voulait recevoir, un peu plus chic. C'est un grand mot, mais enfin, c'était ça, si tu veux. Mais après, il y avait la grande pièce à vivre tous les jours, avec une grande cheminée, pas de truc, pas de gaz, pas d'électricité, rien du tout, du bois. On faisait une provision de bois l'été, pendant l'été, je me souviens, on se régalait, on partait dans les bois, mon père achetait les arbres sur pied, et on allait les couper, les mettre, les débiter, les ramener, on passait la journée à faire ça. Donc on vivait exactement, on a porté des sabots, tout le monde portait des sabots. Moi j'ai porté des sabots jusqu'à 15 ans. Donc on vivait en plein, alors là, milieu paysan et occitan. Et en plus, je te dis, mon père qui a de cet âge-là, c'était un militant. Il s'était fait militant de défense de la langue d'oc. Alors on a baigné dans ce milieu-là, obligatoirement, naturellement.
Qu'est-ce qui avait déclenché ça chez ton père, d'après toi?
Eh bien, ce qui a déclenché ça chez mon père, c'est 2 choses. La première, c'est que, bon, quand il est parti à l'école normale, bon, il était amené à aller un peu plus loin que ce qu'on fait pour le certificat d'études, quand même. Il y avait l'âge aussi, la maturité qui commençait à se faire. Alors, il s'est passionné de poésie. Et il s'est passionné de poésie justement pour ce François Fabier qui était originaire, qui était du Rouen, qui a eu une vie de notoriété à ce moment-là. Il était dans les livres de classe, tu vois, il y avait des... Fabier.
Fabier.
Bon. Je sais pas quel... Enfin, il est originaire de l'Aveyron. Et pour moi, c'est peut-être un type qui avait, il avait fait une carrière dans, le, dans l'éducation. Tu vois, il serait inspecteur de l'éducation nationale. Et, tu vois, un type qui avait certainement fait un peu de... grimper un peu dans, dans la hiérarchie sociale. Et enfin, bon, il faisait des poèmes, donc il y avait une certaine audience. Et ces bouquins, ces poèmes, on les retrouvait dans les livres de classe. Alors mon père il s'est emballé parce que c'était toujours sur des poésies consacrées au Rouergue, à la truc. Alors il badait ça. Et puis alors, il y avait, et alors, ça c'était, alors d'ailleurs au départ, il faisait des poésies en français, comme tout le monde. Mais il y avait Bessou, il y avait l'abbé Bessou. Alors l'abbé Bessou, on peut dire une chose, et ça, et je m'excuse, mais lui n'y est pas arrivé. L'abbé Bessou, il y avait des livres de l'abbé Bessou dans toutes les familles d'Aveyronnettes.
Ouais.
Parce que c'était très populaire, c'était très très, il avait gardé une langue très populaire. Et alors il avait vu des livres de Bessou chez ses parents. Mais je ne sais pas comment c'est venu. Ah ben c'est venu, bon, oui, c'est venu comme ça. Au fond, c'est comme ça qu'il a mis le doigt dans l'engrenage. Il y a eu un concours, précisément. On inaugurait un buste de Bessou. À ce moment-là, il y avait dans le Roir, il y avait. Il s'est trouvé qu'il y avait deux ou trois personnes, là, vraiment des notabilités, qui se connaissaient entre elles en plus. Et puis c'est très avéronné aussi, tu sais, de se serrer un peu les coudes. Il y avait donc un type qui s'appelait Denis Puech, qui était un sculpteur. Et Denis Puech, tiens-toi bien à l'époque dont je te parle, là, c'est-à-dire entre les deux guerres, après la guerre, après le 14, et puis. Dans les années 25-30, Denis Puech était le directeur de la Villa Médicis à Rome. D'ailleurs, c'était une sacrée responsabilité. Et nous avions une brave dame qui s'appelait Emma Calvé, qui avait été là à ce moment-là, c'était à cette date-là, elle était, disons, en âge de retraite, mais qui avait été la Callas. Voilà. Dans les années 90, elle était la Callas. De l'époque. Et puis il y avait Bessou qui s'était fait une notoriété, également. Et alors tous ces gens-là, alors Puech avait fait le buste de Bessou, avait sculpté le buste de Bessou. Et alors Villefranche-de-Rouergue, on allait donc inaugurer le buste de Bessou à Villefranche-de-Rouergue. Et à Villefranche-de-Rouergue, je ne sais pas comment ça s'est passé, enfin, ils avaient fait un concours en disant aux gens, poète du coin, à tous les poètes du coin qui se sentaient la lame poétique, faites-nous une ode à Bessou. Et voilà. Et c'est mon père qui a rapporté la palme. Et tout est parti de là. On lui envoie une lettre, c'est votre poésie qui a été lue, alors nous comptons, nous espérons que vous viendrez la lire. Et alors il est parti avec un de ses copains, un frère d'armes, il y a de la guerre de 14-18, ils sont partis à pied. Pour aller à chercher le train qui les amènerait à Villefranche. Et alors là, il a fait la connaissance de Prosper Estieux, de Père Bosque, de Salva, des notoriétés du félibrisme de l'époque. Voilà comment il a mis le doigt dans l'engrenage. Mais je te dis, à ce moment-là, il avait à peine 23, 24 ans. Voilà. Mais alors, l'explication de tout ça, elle est là. C'est que moi, j'ai passé mes 10 premières années dans le village, vivant dans le village, la vie des gamins du village. Et on n'entendait que cette langue-là. On n'en entendait aucune autre. C'était rarissime. Moi, chez moi aussi, mes parents, entre eux, nous parlaient quand même le français. Mais en dehors, dès qu'on sortait,
Et qu'est-ce qui vous a donné envie
et
Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre ça par écrit
Ce qui m'a donné envie, c'est que, bon, Moi aussi, j'ai mis le doigt dans l'engrenage très tôt avec mon père. Alors là, ça a été plus direct. Mais moi, dès que j'ai pu comprendre de quoi il s'agissait, mon père m'a presque endoctriné. La défense de la langue, tout ce qui était de tradition, etc. On était élevé dans l'amour et dans le respect de ces choses-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit que moi, d'une part, j'ai été, à partir de 12 ou 13 ans, j'ai commencé à m'occuper avec mon père, avec 15 ans, donc j'exagère un peu, 15 ans, à partir de 15 ans, avec mon père, donc ça coïncidait, écoutez, dans les années 33, 34, 35. Mon père a été amené à former une troupe, ce qu'on appelle un groupe folklorique. Et alors, il l'a formé d'ailleurs en deux temps. D'abord à Pompoliva, où il n'y avait pas les quantités de gens. Et c'est là qu'il a commencé à Tonia, la fameuse Tonia. C'est avec ses anciens élèves, des élèves à lui, qui avaient une quinzaine d'années, il a fait un groupe de danse. Et lui, il a commencé à écrire des pièces en un acte, donc facile à monter, avec 2, 3, 4 personnes, et on a commencé à faire du théâtre à ce moment-là. Dès l'âge de 14 à 15 ans, il commençait à faire du théâtre. Et on faisait ça, on a mis aussi comme ça, beaucoup plus qu'au boulot du collège. Alors bon, et donc c'est ça, moi j'ai été nourri de ça constamment. Bon, et alors, après, bon, je me retrouve, moi, très démobilisé à Toulouse. Pendant mes heures, on s'occupe de théâtre toujours, toujours de théâtre encore, avec Cairo d'ailleurs, Dominique et l'abbé Salva et tout ça. Donc j'étais toujours dans le même truc. Alors que moi, ma voix, c'était celle, jusqu'à la guerre, c'était la cagne. C'était le latin, le grec, d'être prof de latin et de grec un jour et de français. Bon, mais ça c'était parallèle, et finalement ça a pris le dessus sur le reste. Mais alors ce qui m'a amené à faire ça, c'est que quand je me suis trouvé démobilisé, il faut voir l'époque, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais on vivait avant d'avoir 27 ans, je n'ai pas pu faire de plan solide de vie pour ce qui me concernait. Chaque fois que j'ai commencé, il y avait un obstacle, il a fallu sortir, chaque fois il y a un truc comme ça. Bon, alors là, bon, on nous a démobilisés. Pourquoi? Du jour au lendemain, parce que les Allemands ont passé la ligne de démarcation, la fameuse ligne. C'était lié avec la fameuse ligne. C'était lié avec les événements de la guerre, les événements militaires, débarquement des alliés en Algérie, des Américains. Du coup, les Allemands, ce qui est appelé la zone libre, encore en France, qui n'était pas occupée, ben les Allemands l'occupent et descendent. Et moi, je me retrouve à la rue. C'est-à-dire, dans les 48 heures, on m'a dit, mes enfants, ben vous êtes démobilisés. Et alors, par chance, je vous en ai parlé, mon père connaissant M. Varagnac, vous connaissez,
ouais.
Varagnac était responsable du bureau du régionalisme à la préfecture, créé à la préfecture. Et il m'engage là. Et c'est là que moi je commence à collecter ma collecte personnelle. Tout ça, ça date de cette époque-là, que j'ai abandonné après, parce qu'encore un coup, bon, j'ai changé de... Je suis passé à la radio, j'ai été remobilisé. Mais en fait, tout ça, c'était... Vous voyez, ça a survécu à toutes ces épisodes inattendus.
Oui, tu avais même l'intention de faire un livre, tu as dit tout à l'heure.
Ah oui, moi au départ, d'ailleurs, écoute, là on le retrouverait, il y a tout un plan. Il y a tout un plan. Tu vois, il y a des trucs là, il y a des trucs, il y a des trucs sur les maladies, les remèdes, il y a des tas de... Ah, sur les superstitions.